Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, comme vous le savez, nous sommes dans une série de science-fiction à science du futur. En fait, aujourd'hui, on va faire plutôt cinéma et science du futur, puisque nous allons nous appuyer sur un film qui s'appelle 120 battements par minute de Robin Campillo. Et pour parler donc de cette période très particulière où on a essayé de lutter pour trouver des solutions à cette affreuse maladie du sida, nous avons deux personnalités. L'une, Thomas Sotinel, bonjour.
Bonjour.
Qui est critique au journal Le Monde, sur le cinéma, sur la musique, et qui a pas mal voyagé, y compris en Afrique de l'Ouest. Il va nous raconter un petit peu ses connexions avec le sujet qui nous anime. Et puis le professeur Laurence Weiss, qui est professeur d'immunologie, qui travaille sur les cellules immunologiques, justement en lien avec les défenses possibles contre le sida, qui travaille à côté de la maison de la radio, puisqu'elle est à l'hôpital Georges Pompidou, et qui, depuis fort longtemps, lutte avec ses collègues pour améliorer la vie, la survie d'abord, et la vie ensuite, des patients, des patientes qui sont atteintes de cela. Alors ce film 120 battements par minute de Robin Campillo, qui est sorti en 2017, a eu de nombreux prix. Et je me tourne vers Thomas Sotinel. Qu'est-ce que vous pensez, vous, sincèrement, de ce film ?
Ah, c'est un film que j'aime beaucoup. Il avait été présenté en compétition au Festival de Cannes. Il avait beaucoup impressionné parce que, d'une part, ça renvoie à un moment de l'histoire, le début des années 90, avant les premières thérapies efficaces. C'est un moment d'histoire, et c'est un moment d'histoire personnelle, puisque Robin Campillo, le réalisateur, était membre d'ACT UP et qu'il a milité contre l'inertie des pouvoirs publics, contre l'indifférence, voire l'hostilité de la société vis-à-vis des patients qui étaient atteints. Et de cette expérience, il a fait un film qui est à la fois une tragédie, et un film politique. Et c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est fréquent d'essayer de faire ça au cinéma, mais c'est rare d'arriver à articuler aussi, de manière aussi fluide, organique, ces deux dimensions du collectif et de l'intime. Et pour ça, il s'appuie à la fois sur ses souvenirs, sur une mise en scène de la réflexion collective du groupe de militants d'ACT UP, qui réfléchissent à la fois aux actions qu'ils peuvent mener face aux laboratoires pharmaceutiques, face aux autorités sanitaires, mais aussi, c'est aussi un mouvement dans lequel des patients s'approprient le savoir médical et font un travail de recherche énorme en contact avec des patients d'autres pays, d'autres organisations. Donc il y a ce côté très... c'est presque un film de guerre, c'est-à-dire c'est une espèce de commando, de petite armée qui lutte. Et en même temps, dans ce collectif, il y a des destins singuliers, dont celui d'un couple, deux garçons dont l'un est atteint et l'autre ne l'est pas. Et Nahuel Pérez Biscayart, ce jeune acteur d'origine argentine qui incarne Sean, le garçon qui est le militant le plus ardent, le plus audacieux du groupe, on l'accompagne dans sa fin, et c'est quelque chose d'extrêmement poignant parce que à ce moment-là, face à la mort, tout se défait, y compris le groupe.
Alors c'est vrai, Thomas Sotinel, que cela retrace donc cette période et centré sur un groupe, ACT UP, alors qu'il y a d'autres aussi, il y a d'autres groupes qui existent, qui sont cités un peu, qui sont présents mais très légèrement. Et quelque part, ce que vous disiez, c'est que c'est quand même l'irruption forte, parce qu'avec des mouvements forts, des patients dans la prise en main de leur affection. Ça donne quand même le signal de ce qui va se passer, moins violemment, mais dans d'autres... des associations de patients qui vont être encore plus actives, plus présentes, plus vigilantes, je veux dire, par rapport à ce que nous faisons, nous médecins, ou surtout les pouvoirs publics, quand ils sont en cause, bien entendu. Donc c'est une période, je crois, où le... Enfin, moi j'ai ressenti, où, même si des fois ça dérangeait d'ailleurs, hein, je veux dire, pour parler clair, parce que c'était un peu, des fois un peu brutal, faut bien le dire, mais en tous les cas, il y avait... Ben, c'était la vie ou la mort, hein, donc on peut comprendre que c'était des mouvements qui étaient très forts. Mais voilà, ça a remis en cause, je crois, une partie de l'exercice médical pour ceux qui voulaient bien être sensibles à cela. Et bien entendu, en me tournant vers Laurence Weiss, qui a vu l'évolution, je dirais, de cette maladie et de la façon dont les hommes et les femmes atteints se sont emparés et ont voulu être acteurs, non seulement au cinéma, mais acteurs de leur vie.
Oui, absolument. Et je pense que ça a été vraiment pour nous médecins une révolution. C'est-à-dire que on n'était plus. On a beaucoup parlé du médecin vu du côté expert, et là, on a été face à des patients experts. Et le médecin n'était pas tout pouvoir, puisqu'on n'avait pas de traitement dans les années 90, puisque le premier traitement antirétroviral a été la ZT. Fin 80, 89-90. Et effectivement, ça a complètement révolutionné pour nous la prise en charge, la relation médecin-patient, avec des relations vraiment très proches, souvent avec nos patients. Et on a aussi finalement adapté notre mode de prise en charge. On a beaucoup travaillé avec les associations, avec ACT-UP, avec AIDE. Et je crois que l'avancée spectaculaire qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas d'autre maladie à ma connaissance qui a fait autant de progrès en 30 ans, si on prend...
Peut-être l'hépatite C, justement.
Alors l'hépatite C, oui, mais finalement...
Enfin bon, peu importe, hein, il y a d'autres maladies qui ont avancé, alors, mais celle-là, elle était lourde.
L'hépatite C, effectivement, il y a eu aussi beaucoup de progrès. On peut guérir l'hépatite C, mais aujourd'hui, on ne peut toujours pas guérir l'infection VIH et le sida.
On la maintient.
On la maintient.
On va venir ça dans, ouais, en détail. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 35 ans du début de la... 35 années, début de l'épidémie. 35 millions de personnes à peu près qui sont décédées dans le monde. Et puis, donc, ce syndrome d'immunodéficience acquise, hein, sida, c'est ce que ça veut dire, je dirais, qui a soulevé aussi des questions de société, indépendamment de la maladie. Parce que je trouve quand même que dans ce film que vous racontez, Thomas Sentinel, il y a quand même une présence, on va dire, cool, enfin, je veux dire, de la relation homosexuelle qui n'aurait pas été possible, je dirais, il y a 30 ans. C'est-à-dire que là, on a quand même une relation entre deux hommes qui est tendre, qui est poétique, qui est érotique, qui fait que la relation homosexuelle, on est, bien sûr, il y a le mariage pour tous, etc., mais on est quand même dans un phénomène de société où il a pris place. Il est peut-être plus visible et moins stigmatisé, encore que.
Oui, c'est vrai que dans le film... Mais le film date de 2017. Si le film avait été fait en 1992, la représentation n'aurait pas été la même. Les Nuits Fauves, par exemple, qui est un des films français qui évoque ça, c'est une représentation beaucoup plus sombre et beaucoup plus tourmentée de la vie quotidienne d'un jeune homme gay à cette période, c'est-à-dire première moitié des années 90. Donc cette représentation, c'est aussi le regard que porte Campillo, qui est quinquagénaire aujourd'hui, sur sa jeunesse et qui veut montrer ce qui se passait, mais quand des membres de la communauté gay se représentaient dans ces années-là, c'était beaucoup plus tourmenté, même si ça n'abordait pas directement la question du sida. Un cinéaste comme Derek Jarman, cinéaste britannique qui est mort du sida et qui a beaucoup mis en scène des histoires entre personnages gays, et avait une imagerie beaucoup plus sombre.
Et Catherine de Médicis demande à Ronsard...
Bonjour tout le monde, nous sommes ACT-UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de
vous
informer.
Qui vous a donné l'autorisation?
Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation.
Ne regardez pas
ça. Il faut savoir, ne regardez pas si de bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas fêlée.
Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
Alors dans cet extrait du film 120 battements par minute, nous avons beaucoup de choses. Nous avons d'abord le rythme, hein, je dirais, de ce film, avec cette musique et ce slogan filigrane, quoi, c'est-à-dire d'Act Up, hein, danser égale vivre. Hein, c'est quand même tous, je dirais, tous ces acteurs à ce moment-là, dans le film, ont une épée de Damoclès sur la tête, forte, hein, puisqu'ils annoncent, d'ailleurs on les voit les défiler avec l'annonce de tous ceux qui les ont quittés. Et donc on comprend un peu l'énergie du désespoir, on a envie de dire, en tous les cas... d'un espoir très très profond. Et puis il y a un point qui m'interpelle en tant que médecin, c'est effectivement l'irruption dans des classes au lycée pour essayer de diffuser finalement les préventions, hein, la prévention en particulier par le préservatif, qui, rappelons-le, à l'époque était condamné, y compris par des grandes autorités religieuses. On est à un moment où on peut espérer que l'information va diffuser, et elle diffuse modérément, et je me tourne vers Laurence Weiss, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'information sur la prévention, chez les jeunes en particulier, est à la hauteur des enjeux qui restent toujours d'actualité?
Effectivement, l'information sur la prévention au départ, ça a été vraiment quasi nul. Vous parlez des préservatifs, il y avait aussi les seringues, hein, puisque les personnes les plus touchées étaient... effectivement la communauté gay, mais aussi les usagers de drogue, pardon, intraveineuses.
Et les femmes n'étaient pas complètement protégées, hein. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y en a dans le film.
Bien sûr, les femmes n'étaient pas protégées, absolument. Donc autour de ça, vous l'avez évoqué, une discrimination des personnes atteintes. Et en ce qui concerne la prévention, il y a eu beaucoup d'efforts de fait à une époque pour la prévention vers les jeunes. Et là, je pense qu'on est plutôt vers de la prévention ciblée dans les populations les plus à risque. Et je crois qu'actuellement, les personnes les plus informées sont les homosexuels, et ce, à cause de la PrEP, dont on va sûrement
parler
tout à l'heure. Voilà.
De ces modes de
traitement. Et donc, après, les personnes les plus touchées aujourd'hui, c'est quand même dans les nouvelles infections. C'est essentiellement les personnes homosexuelles, masculins, et puis plus les usagers de drogue, et puis les femmes, et notamment les femmes migrantes, ou les femmes en situation précaire, on va dire. Pas du tout visées par les campagnes de prévention.
Par ces campagnes de prévention, oui, mais le problème, c'est d'aller trouver les gens qu'on veut prévenir et qui ne sont pas toujours en première ligne, assis au premier rang. Hein. C'est ça la difficulté. Vous parliez tout à l'heure justement des Nuits Fauves et d'autres films qui ont été faits sur ce thème. Comment vous voyez justement le 120 battements par minute comme particularité par rapport à ce qui a été évoqué
Il me semble qu'il y a beaucoup de films qui ont inclus le sida comme élément dramatique. Il y en a relativement peu qui en ont fait leur sujet principal. Et celui qui... a eu le plus de succès, parce qu'il y a eu des Oscars, etc., c'était Philadelphia de Jonathan Demme, dans lequel Tom Hanks incarnait un homme homosexuel atteint du sida, et Denzel Washington, l'avocat qui le défendait contre le licenciement dont il avait fait l'objet, en tout cas contre les discriminations dont il avait fait l'objet en tant qu'homosexuel et malade du sida. Et là, on passe, et je pense que la grande différence, c'est qu'on passe de quelque chose de très individuel, et c'est aussi la différence entre les États-Unis et la France, à quelque chose de beaucoup plus collectif et politique. Alors là, c'est une injustice, et là, c'est un dysfonctionnement de la société dans 120 battements, alors que dans Philadelphia, il s'agit simplement de redresser une injustice. Par ailleurs, il y a un autre film alors, qui a été présenté à Cannes et que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle 5V, qui est un documentaire sur le premier service, la première aile d'un service d'un hôpital, l'hôpital public de San Francisco, qui a été affecté aux malades du sida au milieu des années 80, au tout début de l'épidémie, avec uniquement des soignants volontaires. Et ce film est passionnant parce que, en même temps qu'il montait cette expérience où les soignants renonçaient d'eux-mêmes aux protections, etc., pour être en contact avec les malades, il filmait aussi. Et il y a ce film qui est passionnant, dont j'espère vraiment qu'il va sortir en France d'une manière ou d'une autre, parce que on y voit le début d'une... on voit très bien les militants gays de San Francisco s'associer à une partie du corps médical, médecins et les infirmiers et infirmières ont un rôle très important pour trouver une première réponse qui, à ce moment-là, n'est pas de l'ordre de la thérapie, mais de l'accompagnement. Et ça, c'est un très, très beau film dont j'espère qu'on le verra.
Est-ce que vous pensez que ce groupement comme Act Up, est-ce qu'il y a eu dans d'autres pays ce type de prise en main un peu présente, on va dire?
Aussi musclé, je dirais que non.
Alors, quelle est la particularité de la France? Why? Pourquoi?
Ah si, il y a eu ACT UP aux États-Unis aussi. Donc il y a d'autres pays où ACT UP a été tout à fait partie prenante et parfois de façon violente, mais pour faire vraiment passer des messages importants. Et nous, du côté des médecins, on était, bon, de temps en temps, on disait, quand même, ils exagèrent un peu, mais on était quand même très proches d'eux et on pensait qu'ils ont vraiment fait avancer les choses, quoi. Après, maintenant, il y a des groupements d'associations dans le monde, comme Coalition Plus, qui groupe plusieurs associations de militants, mais c'est pas aussi intense que ce qu'a fait ACT UP.
Mais en Europe, il n'y a pas eu, dans les autres pays européens, il n'y a pas eu des groupements acteurs où ils étaient moins actifs?
Peut-être moins actifs. C'est vrai que dans les conférences, quand ACT UP se manifestait, parfois violemment vis-à-vis des labos pharmaceutiques, il y avait ACT UP France et aussi aux États-Unis.
Laurence Veil, pourquoi cette attaque contre les industries pharmaceutiques alors, à l'époque?
À l'époque, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas assez vite pour le développement.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'ils étaient, ils n'allaient pas assez vite ou ils ne pouvaient pas aller assez vite?
Moi, je pense qu'ils auraient pu effectivement aller un peu plus vite.
Dans l'élaboration de la thérapeutique ou dans la mise à disposition?
Dans la mise à disposition. Parce que quand on savait que des médicaments commençaient à être disponibles et qu'on voyait les patients mourir et qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ces traitements, évidemment, de notre point de vue, il fallait que ça aille plus vite. Après, il n'y a pas que les laboratoires qui sont responsables de la mise à disposition. Il faut savoir aussi que les agences du médicament, ou maintenant la NSM, est aussi une barrière à l'accès à des traitements.
Mais là, on a changé, d'ailleurs, d'une façon...
C'est ça.
Hors sida, d'ailleurs, plutôt pour le cancer, puisqu'il y a des formules qui permettent d'administrer des nouveaux médicaments dont on n'a pas encore fait totalement la preuve classique, quoi, je veux dire, mais qu'on va observer, bien entendu. Donc il y a une nouvelle formule qui permet, vous êtes bien d'accord, qui va plus rapidement qui permet une mise sur le marché plus rapide.
Des autorisations temporaires d'utilisation.
Absolument.
Avec la notion de cohorte, entre guillemets, qui fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès.
Et à ce moment-là, on ne pouvait pas le faire, il fallait passer par toute la procédure.
Mais je voudrais juste dire un mot sur le film, parce que nous l'avons vu avec beaucoup de mes collègues médecins et chercheurs à l'occasion d'une avant-première pendant une conférence SIDA qui avait lieu en France, HIV Science. Et c'est vrai que c'était tellement vrai ce qui a été filmé qu'on est tous restés quand le film s'est arrêté. Il a fallu quelques minutes. Parce que on était vraiment dans la vision de ce qui s'était exactement passé dans ces années-là, quoi.
Mais oui, c'est vrai que vous l'avez dit, Thomas Sentinel, c'est que le metteur en scène a vécu hein, et on le sent, parce que ces assemblées générales, là, c'est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le premier film en tant que réalisateur, Romain Campillon, à l'époque, était étudiant, alors je ne sais plus si c'était encore l'IDEC ou déjà la FEMIS, étudiant en cinéma, il se destinait à la réalisation et il a expliqué que parce qu'il a traversé cette épidémie, il n'a pas pu devenir vraiment réalisateur. Il a été monteur, entre autres des films de Laurent Cantet, il a été co-scénariste et son premier film, c'est Les Revenants, dont est sortie la série, c'est-à-dire l'histoire de gens qui sont toute une partie de la population qui meurt et qui revient. Et ça, c'était très manifeste. Je pense que la métaphore était très claire de vivre avec cette légion de morts, des gens qui sont morts dans la très jeune et qui accompagnent la vie quotidienne des survivants.
Mais je crois effectivement, pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu un peu cette période, il y avait vraiment une espèce de jeu de fléchettes autour de soi. Des gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait plus ou moins bien, qui tombaient, définitivement, et puis en plus ça allait vite, et des gens jeunes, donc c'était quand même une période, peut-être on va en discuter dans un instant, comment faire comprendre que même si le traitement est avancé, même si on peut, prévenir toujours, mais plus guérir qu'auparavant, c'est toujours d'actualité, et qu'il y a peut-être à sensibiliser encore la population, on va en dire un mot dans un instant. Sur France Culture, Matière à penser, et nous sommes en train de parler du film 120 battements par minute de Romain Campillo, avec deux acteurs de cette réflexion autour de moi. D'une part, Thomas Sautinel, qui est critique d'art au Monde, et de cinéma en particulier, et Laurence Weiss, qui est professeur d'immunologie et qui a participé médicalement à toute cette évolution et que nous allons questionner. Cette épidémie de sida est née donc dans les années 80. Qu'est-ce qu'on a finalement, on comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et d'ailleurs, comment ça se passait? Comment ça se manifestait finalement? Avant le décès, j'entends.
Par ce qu'on appelle des infections opportunistes, c'est-à-dire des maladies infectieuses qui normalement ne donnent pas de maladie. C'est quelqu'un qui a un système immunitaire normal.
Mais qui peut se défendre.
Quelqu'un qui peut se défendre.
Là, par
mais
contre, il n'a pas son système.
Lorsque le système immunitaire est affecté et altéré par, l'occurrence ici, un virus, ça détruit des cellules qui sont absolument indispensables à la défense contre les infections. Et du coup, on observait des infections qu'on ne voit pas chez quelqu'un qui est sain, comme des infections cérébrales. Et puis aussi des tumeurs qui sont liées à des virus, qui sont ce fameux sarcome de Kaposi, qui était absolument dramatique, puisque parfois il atteignait des parties visibles et on voyait d'emblée, ça signait que le patient avait le sida, puisque ces infections définissaient le sida, c'est-à-dire la maladie, et non pas seulement d'être infecté par le virus qu'on appelait la séropositivité.
Laurence Weiss, il y a eu un problème clé autour de ces années, d'abord au début avant de trouver en même temps qu'on a trouvé la thérapeutique, et avant qu'on trouve la thérapeutique, c'est le problème du dépistage. C'est-à-dire que comment faire pour que les gens se dépistent? Alors c'était difficile quand on n'avait rien à leur proposer.
Absolument.
Très difficile. Ça l'est moins à partir du moment où on a un traitement possible. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de dépistage alors qu'on a des possibilités d'intervention.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le premier point qui bloque pour l'accès au traitement, c'est le dépistage. Ce qui a freiné au début le dépistage, c'est évidemment quand on n'avait rien à proposer, comme vous le dites. Et puis, il y a le sentiment que si quelqu'un se retrouvait séropositif lors d'un dépistage, il serait discriminé. Et la discrimination des personnes atteintes a été vraiment un frein au dépistage, à l'accès aux soins pour un certain nombre de personnes. Donc, ça s'est amélioré. On a parlé de l'évolution dans ces 30 dernières années de la société, de la
vie. Mais est-ce qu'on est à un moment où ça n'existe plus? Ou est-ce qu'il y a encore de la discrimination?
Ah non, il y a encore de la discrimination. Les patients souvent ne le disent pas au travail. Alors, vous allez me dire, aussi pour le cancer, parfois les gens ne veulent pas en parler.
Oui, pour d'autres choses, oui.
Mais il y a là quand même, il y a toute la vision du lien avec la sexualité, avec qui fait que c'est encore plus difficile d'en parler. Et donc, on voit bien les personnalités publiques qui sont suivies pour une infection par le VIH, beaucoup ne veulent pas en parler, sauf exception d'un certain nombre de personnes qui ont fait un combat de l'annonce de leur séropositivité au public.
Les différentes étapes du traitement qu'on a commencé à développer.
Alors on a d'abord eu l'AZT, puis ça a diminué un peu la mortalité des personnes infectées. C'était un seul médicament.
C'est-à-dire que
ça bloquait la multiplication, la réplication
du virus.
Mais pas très bien donné seul, avec possiblement des effets secondaires, comme d'ailleurs la plupart des traitements. Et c'est vrai qu'il y avait des patients qui disaient « Moi, je ne veux pas prendre d'AZT parce que mon copain, il en a pris, mes copains en ont pris et ils sont morts. » Donc, il y avait une représentation très négative de ce traitement dans la population des personnes infectées. Et puis, après, on est passé à deux médicaments en même temps. Puis, la révolution, ça a été quand même 96, ce qu'on a appelé les trithérapies. On a donné trois médicaments avec le troisième médicament qui n'agissait pas au même niveau et qui donc était vraiment apporté une synergie dans l'action contre le virus. Et ça a été vraiment la révolution, c'est 96.
Avant de poursuivre, je reviens sur le dépistage qu'on a abordé tout à l'heure pour dire qu'aujourd'hui on a des tests de dépistage très rapides. Je voulais vous entendre là-dessus. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire un auto-dépistage aussi. Et c'est des problématiques de solitude avec la connaissance de son état ou bien une prise en charge.
Alors, effectivement, on a des tests. D'abord, on a des tests rapides. Donc, on peut avoir le diagnostic dans l'heure. Après, ça doit être confirmé, mais ça n'existait pas avant. Ces tests, que ce soit des tests rapides.
C'est-à-dire de la présence du virus?
Non, ils détectent la présence d'anticorps.
D'accord.
Ou d'anticorps, combinés à l'antigène, mais enfin, peu importe. Il faut savoir quand même que ces tests ne sont pas efficaces pour dépister quelqu'un qui vient d'être infecté, en primo-infection. Donc c'est une limite quand même, dans une population très exposée. Et l'autotest, on a beaucoup discuté de savoir si ça allait être compliqué pour une personne de découvrir tout seul sa séropositivité. C'est quand même des populations très informées qui font ces autotests. Et finalement, on n'est plus comme dans les années 90 où on disait on est séropositif et comme vous l'avez dit, c'est l'épée de Damoclès sur la tête, quand est-ce qu'on va mourir? Maintenant, les gens sont tout à fait informés que s'ils font un autotest, qu'il y a des traitements efficaces qui sont bien mieux tolérés.
Il y a pas mal de lieux d'accueil.
Et il y a beaucoup de lieux d'accueil, absolument.
Quand même, qui sont pignon sur rue, quoi.
Tous les services mettent en place quand même des circuits rapides pour les dépistages récents.
Donc, test rapide. Ils existent. Autotest, qui n'est pas la même chose, existe également. Et donc, voilà, est-ce que vous êtes plutôt pour un appel à ce que se réalisent ces tests de dépistage, puisqu'il y a un traitement possible?
Absolument. Absolument, absolument. Bien sûr, on a un traitement qui bloque la multiplication du virus, qui empêche la transmission. Donc, c'est vraiment très important. Après toutes les campagnes de prévention, évidemment préservatif en premier lieu, puisque la première contamination est évidemment sexuelle dans le monde. Après, la deuxième grosse méthode de prévention, c'est le traitement pour tous, ce qu'on a appelé le traitement comme prévention.
Une société pour tous, là. À chaque fois,
absolument.
C'est
pas pour tous. C'est le traitement as prevention. Et puis, bon, et ça a été...
Mais alors, justement, reprenons le traitement, parce que je vous ai coupé pour revenir sur le dépistage. Laurence Weiss, multithérapie en 96, trithérapie beaucoup plus efficace, enfin, qui permet de stopper un peu les choses, pas de l'éradiquer complètement, mais de stopper. Et les évolutions ultérieures?
Les évolutions ultérieures ont été vers des formes combinées en un comprimé pour essayer d'éviter le nombre de comprimés qu'avaient les patients, mais qui ne sont pas possibles pour tous les patients, en particulier ceux qui ont eu des longs passés de traitement. Et puis après, on a été à l'inverse, on s'est dit peut-être qu'une fois qu'on a arrêté la réplication, on peut peut-être alléger les traitements et donner plus que deux, faire un peu de l'induction avec trois médicaments et de la maintenance, c'est-à-dire on allège le traitement avec deux médicaments, parfois combiné en un seul comprimé d'ailleurs. Et puis maintenant, on va vers les formes retard, parce qu'on a toujours des patients qui ont beaucoup de mal à prendre les médicaments régulièrement, tous les jours. Et du coup, se développent des résistances du virus et compliquent la suite du traitement.
Qu'est-ce qu'il en est des vacances thérapeutiques? C'est-à-dire le fait de prendre un traitement pas quotidiennement, justement. Alors, vous avez parlé des formes retard, qui se donnent comment? Par oral aussi?
Par injection.
Alors, est-ce que ça s'est diffusé, ces vacances thérapeutiques?
Alors d'abord, il y a eu un essai pilote qui avait été beaucoup mené par Jacques Lebovitch.
À Garches,
absolument. Et puis, auquel a fait suite un essai randomisé aussi par l'équipe de Garches et l'IMEA. Et c'était un traitement 4 jours par semaine. Et les résultats ont été présentés cette année à Mexico. Et donc, avec une non-infériorité, c'est-à-dire à peu près le même risque d'échec, très faible, lorsque le traitement était pris 4 jours par semaine au lieu de 7 jours sur 7.
Donc
après,
faut
faire attention quand même, parce que les patients étaient vraiment sélectionnés. Et puis, on sait très bien que si on fait 4 jours par semaine, probablement, c'est un nombre de patients, ça marche, mais il ne faut pas passer à 3 jours, parce que moi, j'ai des patients qui passent à 3 jours de façon, entre guillemets, sauvage, puis, du coup, ils passent à 2 jours, et là, c'est l'échappement assuré, quoi. Donc, c'est une option, mais je pense qu'elle ne concerne pas tous les patients. Il faut les sélectionner pour leur proposer ce type d'approche.
Donc en fait, les médecins cherchent aujourd'hui à alléger le traitement, tout en gardant bien sûr l'efficacité, et c'est compréhensible. Alors il y a d'autres types de traitements là, qui ont fait leur apparition. En 98, c'est le traitement d'urgence.
Oui.
La possibilité donc pour quelqu'un qui pense avoir peut-être été exposé à ce virus, de se traiter, ça marche comment?
Alors, en fait, dans les heures qui suivent, soit un accident d'exposition au sang pour le personnel de santé, là, il faut que ce soit après... Enfin, on demande à ce que la personne vienne dans les 2 heures, soit après une relation sexuelle non protégée, la personne peut bénéficier de ce qu'on appelle un traitement de post-exposition, qui en fait est un traitement antirétroviral, le même traitement triple qu'on donne à un patient infecté pendant un mois. Et l'AZT avait montré seul qu'il protégeait de plus de 90% le risque de transmission. Donc avec une trithérapie, on n'a plus évidemment comparé. On a d'emblée donné une trithérapie pendant un mois pour prévenir l'infection.
Donc il y a une possibilité de traitement d'urgence, c'est important à savoir.
Absolument.
Et puis à vérifier ensuite si on est passé outre, on est passé à côté, ou s'il faut continuer le traitement. Et puis il y a aussi autre chose qui est le traitement prophylactique pré-exposition, une espèce de traitement continu, mais avant d'être contaminé, parce que là on a parlé des traitements qui étaient des traitements curatifs, à visée curative, de personnes qui étaient contaminées, et on le savait, par le dépistage. Mais là, ce serait un traitement, c'est un traitement qui s'appelle le Trovada, et qui est donc possible de prendre en continu avant d'aller batifoler.
Oui, donc on s'est rendu compte qu'il y avait, bon, déjà il y a eu une baisse des mesures de prévention dans la population gay. Ça faisait 30 ans qu'il...
Mais vous parlez toujours de la population gay. Je suis d'accord qu'elle est la plus exposée, bien entendu. Mais je voudrais pas qu'on baisse la garde pour la population hétérosexuelle qui peut être contaminée également.
Enfin, oui, vous avez raison. Mais malheureusement, vous me parlez de la PrEP.
Et la PrEP,
on aimerait bien que des femmes aussi se présentent pour demander à être prise en charge en prophylaxie pré-exposition. Et l'expérience prouve que malheureusement, on n'en a pas, y compris des femmes qui seraient à haut risque d'infection.
Alors on fait souvent cette comparaison, hein, c'est un peu comme le paludisme, c'est-à-dire qu'on prend un médicament pour ne pas être contaminé, et là on pourrait prendre un médicament pour ne pas être contaminé.
Ouais.
Alors première question, est-ce que ça marche ?
Alors première question, ça marche en continu et ça marche, ça c'est une spécificité de la France, ça a été testé en discontinu, c'est-à-dire pas tout le temps, mais au moment, avant, en continu un peu après, des relations sexuelles à risque.
Mais est-ce que ça c'est pas une façon de baisser la garde par rapport à la prévention, en disant bah moi après tout je vais pas prendre la capote parce que je suis sous PrEP, sous Truvada et tout va bien.
Absolument, mais il y avait déjà eu Bernard Hirschel il y a longtemps avait donné les résultats, enfin avait indiqué, avait statué sur le fait, ce qui était totalement vrai, c'est que les personnes à charge virale indétectable ne transmettent pas. C'est pas celles-là qui transmettent. Les personnes qui transmettent, c'est les personnes qui ignorent leur séropositivité, soit parce qu'elles n'ont pas été dépistées, comme on parlait tout à l'heure, soit parce qu'elles sont en primo-infection, elles viennent d'être infectées, et donc elles savent pas qu'elles peuvent transmettre. La PrEP, ça marche, mais par contre, on a une augmentation du nombre d'autres infections sexuellement transmissibles, la syphilis, le chlamydia, le gonocoque, l'hépatite C, des hépatites C aiguës. Et donc, il faut, en même temps qu'on donne le Truvada, entre guillemets, il faut checker les infections, les autres
et
infections
sexuellement transmissibles. Éduquer sur les risques, bien sûr, encourus. Oui. Je me tourne vers vous, Thomas Sautinel. Vous nous avez fait part donc de vos analyses du cinéma, mais j'ai cru comprendre aussi que vous avez pas mal voyagé et que vous étiez en Afrique de l'Ouest.
Oui, j'ai été correspondant en Afrique de l'Ouest dans les années, justement dans la deuxième moitié des années 90. À un moment, et justement, je me souviens avoir fait une enquête à Boaké, en Côte d'Ivoire, auprès d'une association de prévention contre le sida. Effectivement, on voyait bien à quel point la problématique était différente. La question de l'homosexualité, qui est totalement réprouvée et clandestine dans cette région, était marginale par rapport à la question, à l'exposition des femmes au virus, pour deux raisons. Enfin, d'une part, les prostituées qui étaient nombreuses et et sans défense, qui étaient vraiment victimes de trafic d'êtres humains, souvent en Côte d'Ivoire, elles venaient de pays anglophones, et elles avaient été amenées par des trafiquants. Et par ailleurs, les épouses d'hommes qui avaient été contaminées par la fréquentation de prostituées, et qui, elles, étaient sans défense dans un pays, dans cette région à Boaké, qui est à la frontière entre la région musulmane et la région catholique, puisque c'était un pays encore très catholique à l'époque, avec une église catholique qui réprouvait l'utilisation des préservatifs dans tous les cas, y compris quand une femme savait que son mari était atteint. Donc c'était vraiment une situation extrêmement dure, avec... On était au moment de l'apparition des premières thérapies médicamenteuses, mais qui étaient hors d'atteinte à cause de leur coût pour ces populations. Donc c'est, et en plus, la question des guérisseurs qui faisaient de la publicité partout pour des méthodes magiques qui étaient censées préserver.
Mais guérisseurs même, on va dire, au plus haut niveau, puisqu'il y a quand même des dirigeants politiques qui se sont opposés à l'existence même du sida.
En particulier en Afrique du Sud.
Laurence Weiss, sur le plan mondial, quelle est la situation ? Elle est différente.
Alors, sur le plan mondial, effectivement, alors là, on parle plus du tout un peu plus de la population gay, c'est vraiment la population générale, avec finalement sur les 38 millions de cas de sida d'infection VIH dans le monde, il y en a 25 millions en Afrique subsaharienne. Donc ça touche vraiment de façon importante les pays du Sud. Il y a eu des grosses difficultés d'accès aux soins et d'accès au traitement. L'accès aux soins, bah, c'est mieux, mais il y a toujours de la discrimination des personnes affectées. Et on, vous parliez de la discrimination vis-à-vis de la population homosexuelle en Afrique de l'Ouest. Et donc ça, c'est un frein au dépistage, à la prise en charge. Et si on parle des militants, je crois que Médecins Sans Frontières a vraiment fait avancer l'accès aux traitements antirétroviraux au Sud. Et actuellement, je crois qu'il y a 24 millions de personnes dans le monde qui sont sous antirétroviraux. Donc on a amélioré la couverture et l'accès aux antirétroviraux dans le monde.
Dans les précautions, j'aimerais avoir votre avis sur la circoncision qui a été discutée comme un moyen de prévenir chez les adultes, je dirais. Donc non pas pour motif religieux, mais pour motif médical. Quelles sont les données scientifiques ?
Ah oui, il y a des études qui ont montré clairement que la circoncision diminuait le risque d'infection. La personne circoncise avait moins de risque d'être atteint. Mmh. Alors c'était une possible méthode de prévention en plus des préservatifs. Je crois que maintenant on va vraiment vers ce qu'on appelle le traitement as prevention, c'est-à-dire de traiter le maximum de gens. Et là on sait que si la charge virale baisse, la transmission va baisser. Et donc il y aura moins de nouvelles infections. La circoncision, oui, mais probablement elle n'a pas une place aussi importante que de dire qu'il faut essayer de dépister pour traiter le maximum de personnes.
Ben, c'est-à-dire que si déjà on prend quelqu'un pour lui proposer une circoncision, c'est qu'on va déjà discuter avec lui.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être ouvrir la porte, s'il y a un accès aux médicaments, de le traiter d'une autre façon, de façon qu'on ait... Dernier mot avant qu'on se quitte, ce fameux vaccin... On ne peut pas ne pas parler de ça, puisque tout le monde l'attend depuis 30 ans, mais voilà.
Je dirais pas qu'on a vraiment progressé. C'est très compliqué, parce que c'est un virus qui mute beaucoup, un peu comme la grippe, mais encore plus. Et donc,
il faut vacciner une fois par an, quoi.
Un nouveau vaccin à chaque fois. On a eu beaucoup de difficultés à trouver vraiment quelles étaient... ce qu'on appelle les corrélats de protection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait obtenir comme réponse immunitaire pour vraiment protéger une personne. Maintenant, on va beaucoup vers les anticorps neutralisants, mais ça reste assez compliqué.
Donc, il y a des recherches qui sont en cours.
Les recherches se poursuivent. Pas de solution encore. Pour l'instant, la meilleure solution pour la prévention reste de traiter le maximum de personnes et pour les personnes les plus à risque, l'accès à la prophylaxie, pré-exposition.
Laurence Weiss, merci. Thomas Sautinel, merci de votre présence. Vous avez donc écouté cette émission sur le sida et sa représentation cinématographique par 120 battements par minute de Romain Campillo et puis l'état de la science, on va dire, dans ce domaine. Nous avons, grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Justine Wild et Julien Douminc, pu, réaliser cette émission que vous pourrez réécouter sur le site internet de France Culture autant que vous le souhaitez. Et nous nous retrouvons demain pour parler d'un autre science-fiction, du futur, qui est le conte de Noël d'Arnaud Desplechin, Greffe de Moelle, avec Eliane Glückmann.